Vous êtes toujours sur le studio Kalangou, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 18h au micro Nefis Adam Sirfo. Les titres de ce journal, la Fédération nigérienne de football a désormais un centre technique national. Il a été inauguré ce matin par le président de la République, Issifou Mahamadou, en compagnie du président de la Fédération internationale de football FIFA, Gianni Infantino, en visite au Niger depuis hier. Retour sur la réunion hier du Conseil national du dialogue politique à CNDP, à suivre les conclusions de ses travaux dans ce journal. Des cas isolés de méningite ont été enregistrés récemment au Niger. Pas de risque d'épidémie, mais vigilance recommande le ministère de la Santé publique. Enfin, les ambitions du NEPAD sur l'emploi des jeunes dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine sur le continent. C'est de cela dont nous parlerons dans la partie magazine de ce soir. Le président de la République, Issifou Mahamadou, a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration de l'hôtel du Centre technique de la Fédération nigérienne de football. Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a mis à profit la cérémonie pour expliquer les réformes qu'il a apportées à la FIFA et son ambition pour l'Afrique en général et pour le Niger en particulier. On l'écoute.
Il faut impliquer l'Afrique dans la gestion de la FIFA et c'est pour ça que la première secrétaire générale femme et non européenne, c'est une Africaine, c'est Fatma Samoura du Sénégal. En plus de ça, on a augmenté le nombre des membres africains au sein du Conseil de la FIFA, on est passé de 4 à 7, c'est beaucoup. On a augmenté aussi le nombre d'équipes lors de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on donne ce rêve au monde entier de pouvoir investir dans des centres comme celui-ci, dans des hôtels comme celui-ci, dans des infrastructures comme celles qu'on a vues dans la vidéo, pour pouvoir rêver de participer à la Coupe du Monde d'ici 9 ans. Le Niger aujourd'hui fait partie de la carte géographique du monde footballistique. Jusqu'en 2015, la FIFA investissait, distribuait 27 millions de dollars en Afrique. Aujourd'hui, la FIFA distribue 94 millions de dollars par année à l'Afrique, presque 100 millions.
Gianni Infantino, président de la FIFA, que vous venez d'écouter au micro de Mokhtar Hamadou. 14 pays se sont engagés à financer 672 millions de dollars, un fonds d'aide aux victimes du groupe jihadiste Boko Haram dans 4 pays du bassin du lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. À l'origine, les Nations Unies estimaient à 1,5 milliard de dollars le montant des besoins pour ces pays. La décision a été prise à la conférence humanitaire sur la crise du bassin du lac Tchad tenue du 23 au 24 février dernier à Oslo, en Norvège. Je l'annonçais dans les titres, le ministère de la Santé publique a annoncé hier que quelques cas sporadiques de méningite ont été enregistrés récemment au Niger. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour sa part, a établi la situation de la méningite en Afrique pour ce mois de février. Détail avec Rahilatou Soumana.
Aucun district sanitaire n'est en alerte ou en épidémie aux dates du 13 au 27 février 2017, a notifié le ministère de la Santé, mais fait état de quelques cas isolés enregistrés. Aucun chiffre précis n'a été communiqué. Cependant, 5 districts sanitaires sont en épidémie dans 4 pays, dont un district sanitaire au Togo, au Bénin et en Éthiopie, et 2 au Ghana. 12 autres districts sont en alerte dans 7 pays, dont le Burkina Faso, le Cameroun, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Togo et le Tchad. Selon le ministère de la Santé, un plan de préparation et de riposte de la méningite a été élaboré et validé depuis janvier 2017. Toutes les directions régionales de la santé vont renforcer la surveillance épidémiologique. Les autorités sanitaires invitent la population à signaler tout symptôme présentant une forte fièvre et raideur de la nuque pour les personnes de plus d'un an ou une forte fièvre et présentant un bombement de la fontanelle pour les nourrissons. Enfin, elle déclare que des dispositions ont été prises dans tous les districts sanitaires du pays pour la prise en charge gratuite d'éventuels cas de méningite.
En politique, la réunion du Conseil national du dialogue politique a statué hier au cabinet du Premier ministre sur les résultats des travaux sur le système électoral au Niger. Plusieurs propositions ont été prises par les partis de la mouvance en absence de l'opposition et des non-affiliés. Les explications avec Habibou Garba.
Cette première réunion du CNDP au titre de l'année 2017 intervient quelques jours après la prorogation des mandats des conseillers régionaux et municipaux. L'un des points saillants de cette rencontre est la demande de mise en place d'un fichier biométrique afin d'organiser des élections crédibles, a déclaré le secrétaire permanent Yaya Garba. Pour lui, un comité chargé d'élaboration étant déjà en place, ce fichier devrait être disponible dans 2 ans. L'autre conclusion de la réunion d'hier du CNDP est la réorganisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le CNDP suggère que le nombre des membres de la CENI soit réduit à 13 et qu'ils siègent de façon permanente. Les délégués des partis politiques présents à cette réunion ont formulé le vœu de voir aux prochaines élections législatives des listes nationales pour, disent-ils, renforcer l'unité nationale. En ce qui concerne la vacance d'un poste constaté au Parlement, le CNDP estime que c'est à l'Assemblée nationale de prendre les mesures qui s'imposent. Pour finir, Yaya Garba affirme qu'avec ou sans les autres partis membres du CNDP, ces propositions seront transmises au gouvernement pour examen, puis à l'Assemblée pour adoption. A noter que lors de cette réunion, le président du CNDP, Virgil Raffini, avait demandé à l'opposition et aux non-affiliés de reconsidérer leur position. Et l'opposition que nous avons contactée n'a pas souhaité faire des déclarations à notre micro.
Toujours en politique, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, a publié un communiqué ce lundi 27 février concernant le déploiement de 80 soldats dans la région de Tillabéri en appui aux forces de défense et de sécurité du Niger. Détail avec Tanan Foudey Ahmed.
L'opposition politique nigérienne s'est dit indignée d'apprendre sur les ondes d'une radio étrangère le déploiement d'un contingent militaire français de 50 à 80 soldats dans la région de Tillabéri, où la semaine dernière, les djihadistes ont attaqué un convoi des forces de défense et de sécurité nigériennes, occasionnant la mort d'au moins 15 soldats. Dans ses communiqués, le FRDDR dénonce en ces termes, je cite, « Nous passons la mort dans l'âme que la sécurité territoriale est ébranlée et la souveraineté nationale est gravement mise en cause. » Fin de citation. Selon elle, cette situation incite l'intelligence et le sens de la responsabilité nationale et exige, dit-elle, de surseoir au dit déploiement de 80 soldats français au Niger. Dans ce communiqué, l'opposition a également exigé la dissolution immédiate de la garde présidentielle et affectation des hommes et matériels à la disposition de l'armée républicaine. Les opposants nigériens demandent à leurs députés, lors de la prochaine session parlementaire, d'engager la procédure de création d'une commission d'enquête afin de faire la lumière sur les dépenses au profit de la défense et de sécurité du pays au cours des 10 dernières années.
À noter que l'Union africaine a publié un communiqué de presse le 24 février dernier dans lequel elle condamne l'attaque du 22 février passé. En bref, le sit-in d'hier devant la direction régionale de l'enseignement primaire, les militants de cause Niger et SINASEB se sont retrouvés au gouvernorat ce matin où ils ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Le coordinateur du SINASEB, Seibou Adamou, et 6 de ses camarades ont été arrêtés et gardés au commissariat de Dosso avant d'être relâchés. La situation est calme pour l'instant. Cependant, cause Niger et SINASEB section de Dosso ont déposé un préavis de grève de 48 heures pour les 2 et 3 mars 2017 et réclame le départ du directeur régional de l'enseignement primaire Tamou Kassoum. À Agadez, dernier délai aujourd'hui pour la fermeture officielle du site aurifère de Diado. Cette fermeture doit permettre la réorganisation du site selon Fatimi Boudou, préfet du département de Bilma. La majorité des orpailleurs et commerçants sont en train de quitter le site, a déclaré Sadou Kakale, un des commerçants du Diado, joint au téléphone ce matin.
Nous sommes à la gare où se fait présentement le chargement des passagers et leurs bagages dans les camions. Hier, juste après la prière de 14 heures, le commandant en personne est venu devant la grande mosquée pour nous expliquer. Il nous a dit que celui qui reste sur les marchés jusqu'au Maghreb, tous ses biens seront brûlés, que tout le monde se débrouille pour quitter avant demain, 1er mars, dernier délai. Celui qui n'a pas les frais de transport peut se présenter à la compagnie pour se faire enregistrer. Il sera fouillé. ne détient pas un couteau, une lame sur lui. Il ne doit porter que son bidon d'eau et sa couverture. À Agadez, plus de 30 000 personnes sont entassées là-bas. Certains s'adonnent à la mendicité. Le gouvernement avait pris l'engagement d'envoyer des camions pour nous transporter. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas vu un seul camion. À la gare ce matin, il y a plus de 50 véhicules qui sont chargés et prêts à quitter.
Vous venez là d'entendre un témoignage d'un commerçant du Djado joint au téléphone par Gunku Mahamane Dantani. Donc le site orifère de Djado est en train d'être vidé, des milliers d'orpailleurs convergent vers la ville d'Agadez. Cette situation est devenue inquiétante pour les autorités communales de la ville qui craignent une insécurité résiduelle, selon Boubacar Azawal, le premier vice-président, vice-maire de la commune urbaine d'Agadez. Des dispositions sont en train d'être prises.
C'est vrai, c'est toujours la commune urbaine d'Agadez qui va suivre les conséquences des retours de ces jeunes qui sont sur le site de Djado. Et bien avant les retours des jeunes qui sont sur le site de Djado, nous on connaît la migration, un flux migratoire qui existait dans la commune urbaine d'Agadez. Et c'est la commune urbaine d'Agadez qui a subi les conséquences du point de vue assainissement, du point de vue insécurité, du point de vue même du secteur social, accès aux services sociaux de base. À tous ces facteurs, depuis avant-hier, on a constaté les retours des jeunes qui sont sur le site de Djado. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un débordement dans la commune urbaine d'Agadez. Il y aura une surcharge dans la commune urbaine d'Agadez. Ça veut dire qu'on doit se préparer en conséquence. Et un certain nombre de précautions sont en train d'être prises, notamment l'insécurité résiduelle, éviter le vol dans des domiciles privés. C'est vrai, c'est des facteurs qu'on n'a pas maîtrisés. C'est incertain, mais on est en train de prendre des précautions. C'est une obligation pour la commune et pour l'État d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Culture Cinéma, la 25e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, se poursuit à Ouagadougou. Cet après-midi, c'est le film Arbre sans fruits d'Echa Makikidi qui est entré en compétition dans la catégorie des films documentaires. Un des 5 films nigériens a d'ores et déjà été projeté le dimanche 26 février.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de cette édition, le nouveau partenariat pour le développement NEPAD a décidé en 2016, dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine, de concentrer l'ensemble de ses interventions dans 4 grands programmes parmi lesquels je cite la compétence et emploi des jeunes. Écoutons les ambitions du NEPAD sur ce programme avec sa coordinatrice Ingi Fatih Hassan que Mokhtar Hamadou a rencontré ce matin.
Ce programme vient en directe réponse aux enjeux rencontré par le continent africain, à savoir le sous-emploi et le chômage des jeunes, et surtout dans une logique de prospective où on sait que d'ici une quinzaine d'années, nous aurons 300 millions de jeunes entre 15 et 30 ans sur le marché du travail. Ces 300 millions de jeunes africains qui sont déjà nés, donc on ne parle pas de projection, mais on parle de jeunes qui sont nés, qui ont entre 0 et 15 ans aujourd'hui, et pour lesquels il faut trouver une solution. Donc, le NEPAD a réfléchi donc avec ses différentes parties preneurs, avec ses partenaires, avec les États et les communautés économiques régionales, et est arrivé à une approche qui consiste à trouver les interventions catalytiques qui auront le plus d'impact sur la jeunesse du continent, c'est-à-dire aller trouver les jeunes où ils sont et proposer des solutions permettant de créer de l'emploi qui apporte plus de valeur à l'ensemble du continent africain.
Quelles sont concrètement les opportunités qu'offre votre programme aux jeunesses africaines et à la jeunesse nigérienne?
Nous intervenons donc auprès des États à travers les communautés économiques régionales. Nous avons en effet plusieurs projets, programmes que nous mettons en œuvre. Un autre programme dont je peux vous parler, c'est également le Fonds fiduciaire de solidarité africain qui a été mis en œuvre avec la FAO. C'est un programme de 4 millions de dollars qui concerne 4 pays, à savoir le Malawi, le Cameroun, le Bénin et le Niger. Et ce programme vise non seulement à doter les États de plans de formation professionnelle dans le domaine agricole, mais également d'appuyer directement des organismes qui œuvrent dans le domaine de la formation professionnelle agricole. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui au Niger avec mon équipe. Il va s'agir pour nous d'appuyer le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Emploi des Jeunes, le ministère de la Formation professionnelle pour mettre en œuvre les structures de gouvernance de ce projet et également rendre visite aux organismes qui vont directement mettre en œuvre la coopération, les accords de coopération avec le NEPAD et la FAO.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.